trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9, la première émission de théâtre de l'année 2012, et je suis avec pratiquement toute l'équipe de Vendredi Théâtre. Nous avons Julie Cadillac de BSC News, bonjour.
Bonjour.
Grazia.
Bonjour.
Et Tito, l'inénarrable Tito.
Bonjour.
Bah, une très bonne année à tous, hein, déjà pour commencer. On n'avait pas encore eu l'occasion de le souhaiter à l'antenne, donc une bonne année à tous. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses cette semaine, et on va commencer tout de suite avec le déjeuner chez Wittgenstein. J'ai toujours du mal à le prononcer celui-là. Une pièce de Thomas Bernard qui se joue à Jean Villard, et j'ai le plaisir, l'honneur, le bonheur et l'avantage de recevoir Élodie Buisson, bonjour.
Bonjour.
Et Richard Mitou, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce déjeuner chez Wittgenstein, c'est donc une pièce de Thomas Bernhardt, une pièce en trois actes. Nous sommes dans la société, la grande bourgeoisie autrichienne qui va être complètement démolie par ce texte de Thomas Bernhardt. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire le pitch un petit peu de la pièce pour nous dire de quoi il s'agit ? Julie, tu veux ou...
Oui, enfin, si vous voulez. Oui, donc, bon, moi, c'est une... Enfin, j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé cette mise en scène. Et évidemment, la distribution et les comédiens hein, qui l'interprètent. Parce que, donc, c'est des petites cruautés en famille, en fait. Hein, c'est ça que l'on voit, au final. Donc, c'est deux sœurs, hein, Ritter et Dane, c'est ça, il me semble. Donc,
bravo.
Qui donc ont l'espoir de faire revenir leur frère à la maison, leur frère qui est dans un asile à Steinhof, c'est ça, qui s'appelle Voss. Le
bravo,
frein.
Bravo.
Voilà, effectivement. Et donc, du coup.
Ils sont chez gens qui viennent au théâtre et qui comprennent tout, c'est magnifique. Et qui retiennent tout.
Voilà, super. J'ai tout retenu. Et du coup, voilà, donc, il y a beaucoup d'espoir, enfin, beaucoup d'espoir pour la sœur aînée, notamment. La sœur cadette, elle est déjà sûre que ça ne fonctionnera pas. Et puis, il y a un repas, on assiste à un repas, absolument.
Gargantuesque, on mange
gargantuesque,
tous les soirs.
Qui n'arrête pas de manger, effectivement. Ouais. Et voilà, et du coup, bon, moi j'ai trouvé que c'était très bien mené, il y avait beaucoup d'énergie, il y avait des choix... des choix dans la façon dont est montrée cette famille qui touche hein, qui touche aussi parce que je crois que ça rappelle ça parle pas que de la société autrichienne et que ça rappelle effectivement les rapports familiaux de façon générale et notamment les rapports fraternels. Et du coup, je me demandais moi un petit peu comment vous aviez travaillé notamment il me semble qu'il y a une ligne directrice déjà, c'est celle des rapports frères-sœurs évidemment, et comment est-ce que vous aviez travaillé ça dans l'énergie, je sais pas si vous voyez.
On essayait de trouver des rapports concrets entre la fratrie. C'était un peu le désir de Frédéric Bory, le metteur en scène, qui n'est pas là en ce moment parce qu'il joue Platonov, mis en scène par Nicolas Auton, et donc trouver une vérité dans les rapports. Il nous a beaucoup parlé de Bergman, essayer au départ d'enlever tout théâtre et trouver une vérité dans les rapports, et puis toujours se baser par rapport au texte.
Oui, voilà.
Évidemment, par rapport au conflit entre ses frères, ses sœurs, par rapport à cette vie-là. Et on s'est inspiré aussi des frères de Wittgenstein, qui c'est une famille où à l'intérieur de cette famille-là, ils devaient être que des génies. Et il y a deux frères, ou trois frères,
trois, quatre
suicides dans la famille, parce qu'ils ne réussissaient pas à être des génies. Donc voilà, on s'est inspiré de tout ça et essayé de trouver la vérité.
Ce qu'il faut dire également, c'est qu'effectivement, c'est donc dans le pitch sur la pièce, c'est qu'effectivement, la pièce a différents niveaux de lecture, mais qu'à l'origine, Ludwig Wittgenstein donc, est un philosophe et Bernhardt a connu son neveu. Il y a un texte de Bernhardt qui est un récit qui s'appelle Le neveu de Wittgenstein, qui était un grand amoureux de musique et qui, lui, effectivement, était interné à Steinhof. Et Bernhardt était dans un pavillon à côté parce qu'il avait des problèmes de pneumonie, il a failli mourir très très jeune. Et donc, il est devenu très ami avec ce Paul Wittgenstein. Et après, il a voulu, effectivement, presque lui rendre hommage à cet homme féru de musique et totalement intransigeant comme l'était Bernhardt sur plein de choses. Et effectivement, ce qui est beau dans cette pièce, c'est que Bernhardt, qui est aussi quelqu'un qui a vécu la montée du fascisme, qui était à l'école en Autriche quand il devait faire le salut nazi en accueillant l'instituteur, a une espèce de haine de cette société, et il use de cette histoire de famille industrielle bourgeoise et comment la famille peut écraser l'individu, en fait, comment les ancêtres peuvent écraser l'individu et les pousser vers la folie. Après, alors, donc il y a la folie, il y a la critique jubilatoire de Bernard du monde artistique, mm-hmm. puisque c'est un monde dans lequel il baignait et qu'il haïssait aussi fortement. Donc il y a beaucoup de haine chez Bernard, mais c'est comme une haine jubilatoire. Et puis il y a la famille, donc la famille, la haine de la médecine aussi, puisque lui a côtoyé des médecins. Donc cette espèce de, c'est comme s'il y avait quelque chose, une catharsis comme ça, où Bernard se libère de tous ses démons, la médecine, l'art, l'Autriche. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça, je pense que en tout cas, ça nous parle à tous, nous, monde artistique, ça parle, et effectivement la famille, ici, famille autrichienne, ces conflits de famille, ça pouvait faire penser à Festen, je ne sais pas, ce film,
oui,
vous voyez,
c'est-à-dire que
d'un seul coup, il y a
des révélations,
les frères et sœurs se disent tout très violemment, vous parliez de petite cruauté tout à l'heure, c'est des énormes cruautés, il y a l'inceste familial, enfin il y a tout ça. Donc,
oui, on essaie de les faire digérer avec les profiteroles, quoi, donc voilà.
C'est vrai qu'il y a la scène aussi avec les portraits de famille, les ancêtres, le père, la mère, etc. Et c'est vrai qu'il y a une frénésie tout à fait jubilatoire qui monte petit à petit, une frénésie de destruction de ces portraits, de cette famille, de tous les mythes qui forment le socle de cette société autrichienne. Je rappelle d'ailleurs que Thomas Bernard, dans son testament, avait interdit qu'on représente ses pièces en Autriche, qu'on diffuse son œuvre et ses pièces en Autriche pendant au moins 50 ans.
Oui. Alors justement, moi je voulais réagir là-dessus parce que là je me sens très proche de Thomas Bernhard. Je crois que tout le monde qui vient d'un pays qui est catholique, d'inspiration catholique et qui a connu le fascisme ne peut que comprendre pourquoi Bernhard justement interdit ses pièces dans ce pays. Parce qu'il est toujours là. Il est toujours là, ce catholicisme et ce fascisme est toujours là. Il revient par vague, par roulement. Il y a vraiment des moments où le fait d'être ce pays-là. On ne supporte plus d'être de ce pays-là. Ce n'est plus possible. On a envie de tout casser. On a envie de plus jamais y aller. Vraiment, c'est atroce. Après, il y a la famille. Ce n'est pas n'importe quelle famille. C'est une famille catholique. Et ça a son importance. C'est donc là, le nazisme en Autriche. Je crois que c'est exprès ou c'est dans la pièce que ça se passe avant l'Anschluss.
Non, ça se passe avant. Hein. Après, voilà. Sur les dates, il est un peu flou, mais c'est avant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà. Donc, c'est ces gens-là qui vont amener Hitler, qui vont applaudir Hitler, qui vont... Et ça, c'est très très bien donné, rien que par les scènes de chasse. Déjà, là, les têtes de chasse sur le décor,
oui,
c'est merveilleux ça, parce que ça, c'est vraiment toute la mentalité de ces gens-là. Tout est là. Hein? Et puis les ancêtres, mais toute famille bourgeoise a ses ancêtres. Ça peut être les petites photos de chez grand-mère, ça peut être la chambre des morts... chez certains, hein, avec les photos de tous les gens qui, en fait, on regarde, il n'y a pas un qui est vivant. Et ces gens, c'est la famille, elle est incapable, comme l'Autriche, elle produit des génies, mais elle les tue, les génies. Et pour être génie, il faut s'en sortir de ça. Et d'une certaine façon, pour être un génie en Autriche, comme dans n'importe quel pays catholique et fasciste, il faut s'en sortir de ce pays-là. Pas sortir physiquement, mais il faut s'en sortir de ce pays-là. Et je crois que c'est ça le grand enjeu en background du problème familial qui se passe entre eux. Voilà. C'est ma lecture. Hein.
C'est une très belle lecture. Il y en a de multiples, mais c'est vrai qu'elle est très très juste. C'est exactement ça, c'est-à-dire... Là, à un moment d'ailleurs, il faut s'en sortir. Il y a un moment du texte, parce qu'on lui dit qu'on dirait peut-être des extraits, mais il y a un moment où il explique qu'on est à un repas, un dîner, comme ça, et il dit la salle. À un moment, il synthétise toute sa folie à lui, et je parle de Ludwig Wittgenstein, du personnage, parce que tout à l'heure on a dit c'est Voss, Denner, Ritter, vous avez dit les personnages, oui, et en fait c'est Bernhard qui fait un hommage à trois acteurs. La pièce s'appelle Ritter, Denner, Voss. Mm-hmm. Ces trois sont des acteurs allemands, et la pièce s'appelle Ritter, Denner, Voss, acteur intelligent. En France, donc il a écrit ça pour trois acteurs. Oui. Donc mon personnage s'appelle Voss, mais en fait c'est Ludwig. Enfin, c'est
compliqué. Oui, voilà. Oui, c'est
vrai. Et il fait énormément de mélanges, il joue avec beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'emporte contre le docteur Frege. Et docteur Frege, en fait, c'est un philosophe contemporain de Wittgenstein. Et ils étaient totalement opposés sur la pensée. Et donc une espèce de haine du docteur Frege qui, finalement... alors il joue avec plein de choses comme ça, il mélange plein de choses. Mais c'est vrai qu'en dans le fond... Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que ce qu'explique le frère, à un moment, il dit la salle à manger. Tout le mal est parti d'ici. Père, mère, enfant, rien que personnage de l'enfer. Tout ce qui était de quelque valeur a toujours été noyé dans les soupes et dans les sauces. Une pensée, en avais-je une fondée sur des faits, en avais-je une d'une réelle valeur, la mère la noyait dans sa soupe. Un sentiment, en avais-je un fondé sur des faits, en avais-je un d'une réelle valeur, elle le recouvrait de sa sauce. Et le père tolérait sans scrupule ce que ma mère étouffait en moi. C'est splendide, hein, tout ça, parce que là, d'un seul coup, on voit la famille, comment effectivement, il faut sortir de ça. Et il dit, voilà pourquoi cette salle à manger, je l'ai toujours haïe. De cette place-ci, de la place du père, n'ont jamais été prononcés que des arrêts de mort. Alors, voilà, c'est quand même... Et puis, c'est il y a terrible. Cette volonté de s'en sortir, c'est terrible, mais il y a, en fait, aussi, chez Bernhard, une jubilation, c'est vraiment, il casse tout. Il y a des scènes...
Ça, c'est merveilleux.
De drôlerie, de profiterole, où il dit, ah, tu veux que j'en mange des profiteroles? Donc, il y a une espèce de jubilation de la folie, aussi, d'échappatoire grâce à la folie pour s'en sortir.
Et de jubilation de la destruction aussi.
Jubilation de la destruction.
Le moment où on sent que ça monte un moment et puis on se dit ça va arriver et ça arrive et c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer et ça c'est tout à fait fabuleux et c'est vrai le mot jubilatoire là il convient tout à fait.
Il y a de la casse.
Il y a de la casse.
Faut pas se mettre au premier rang, on a condamné le premier rang.
La casse salutaire et qui fait du bien. Grazia, on t'a pas encore entendu.
Moi j'ai beaucoup aimé bien sûr. Excusez-moi.
Ah, c'est la petite toux d'hiver.
J'ai aimé, bien sûr, hein, j'ai beaucoup aimé. La mise en scène est fantastique, tout est parfait, il n'y a rien à redire. C'est millimétré, absolument, c'est pratiquement mathématique. Hein, les acteurs sont formidables. Le réquisitoire contre l'art. C'est extraordinaire, d'autant plus quand on sait que les Wittgenstein, pourtant j'ai fait de l'allemand, hein, étaient des mécènes. Hein, oui, donc oui, voilà. Ouais. En réalité, je me suis posé la question, je me suis dit, mais. Probablement, ils sont fous tous les trois.
Oui, ah oui.
La névrose, chez Ludwig, c'est là où elle explose, où c'est le plus évident. Mais chez la sœur qui cache sa bouteille de vin et chez l'autre qui veut tout ranger, elle range dans sa tête. Quoi. Il y a quelque chose qu'elle range dans sa tête. Enfin,
le poids des ancêtres les ont touchés tous les trois, c'est sûr. Voilà, elles sont enfermées dans cette maison depuis des années et des années.
Ouais. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage qu'incarne Isabelle Olive. Qui finalement a repris le rôle de la mère et qui est une mère et c'est vraiment elle l'incarne d'une façon assez troublante, hein, et notamment dans les rapports avec les rapports qu'elle a avec Ludwig et même c'est un personnage qui du coup moi j'avais pensé à ça, je m'étais dit vous avez intégré, bon, ils ont tous des psychoses, hein. Il y a celle qui a sa bouteille, il y a les tocs de Ludwig, il y a la façon de ranger la maniaquerie de Den. Mais je m'étais demandé, est-ce que vous avez poussé un petit peu ça, parce qu'il fallait quand même ajouter une petite touche un peu, pas burlesque, mais voyez, enfin, en tout cas, donner un côté un peu comique, parce que quand même, il y a une ambiance hyper étouffante, il y a une atmosphère étouffante, et puis c'est pas drôle, ce qui est raconté au final, hein, c'est un repas terrible, et on rit, pourtant.
Oui, parce que je pense que nous, effectivement, le souci de Fred Bory, c'était de glisser vers le tragicomique et vers le burlesque à la fin, mais effectivement je crois que c'est présent dans l'écriture de Bernhard. Si on lit les entretiens de Bernhard avec Christina Fleischer et quand on voit son petit regard malicieux, celui qui a vécu des choses terribles, qui a failli mourir très jeune, qui avait une espèce effectivement de haine du milieu artistique autrichien, de son pays, quand on regarde son petit regard bleu, brillant, pétillant, il y a toujours derrière l'humour. Et c'est en allant, en creusant, parce qu'il a une langue qui ressasse comme ça, en creusant, en répétant sa haine de l'Autriche. Au bout d'un moment, ça devient tellement, tellement énorme qu'il y a, qu'on en rit, parce que c'est obligé d'en rire. Voilà. Et la manière dont Ludwig détruit la peinture, à un moment où les sœurs disent « se faire peindre, mécénat abject, mes sœurs se sont fait peindre, comme les parents se sont fait peindre, art de peindre, art inférieur, art totalement inférieur, musique, oui, peinture, non. » Et puis alors, il est là comme ça, et au bout d'un moment, il y a 10 minutes sur la peinture, et là, on ne peut plus, on en rit tellement cet homme. Mais c'est-à-dire qu'à force de haine et de rejet, il y a quelque chose de jubilatoire et de drôle. Donc je pense que nous, on a fait ce travail-là, mais c'est vraiment présent dans l'écriture de Bernard, l'humour, qui est indispensable pour s'en sortir, parce que sinon, ce serait effectivement beaucoup trop étouffant.
Et oui.
Et les deux sœurs sont comédiennes.
Et lui, il est le théâtre, évidemment.
Il est le théâtre. Ouais. Il y a un moment où il dit, je ne me souviens plus exactement.
Il y a une chose là, peut-être si on fait un extrait, je ne sais pas si c'est
on va le faire, on va le faire.
Parce qu'elle va, y a, sur le début du troisième acte, Ritter dit, parce que les deux sœurs, ce qui est incroyable, c'est que le père est très riche, il ne sait pas quoi faire de son fils, des sœurs, il ne sait pas, alors le fils, bon, il sera philosophe, il va essayer d'être un génie, mais il ne le sera jamais, voilà, le père l'écrase. Et puis les sœurs, au moins, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter 51% des actions du théâtre, vu que c'est une famille très riche, comme ça, elles joueront quand elles voudront, et puis voilà, elles seront artistes. Donc, il y a un petit extrait comme ça sur le théâtre qu'on peut vous faire.
Bah voilà, c'est ce que j'allais vous demander, si vous voulez bien.
Tu as bien entendu, 51%. Avec ces 51%, notre père nous a pris une assurance vie dans l'art dramatique. Prévoyant, comme on dit. Père était un génie commercial, et il savait ce qui est vital pour nous. De toi seulement, il ne savait quoi faire. De toute sa vie, rien. Avec ces 51%, c'est nous qui décidons aujourd'hui encore quand nous jouons et quand nous ne jouons pas. Si c'est dans un Shakespeare ou non.
Assuré à vie dans l'art dramatique, voilà une bonne remarque.
Et 51% nous offre la possibilité de ne mettre notre talent en jeu que quand cela nous convient. Nous ne nous laissons pas distribuer à discrétion et sans vergogne. Nous ne nous laissons pas exploiter sans scrupule et abîmer. Le directeur du théâtre dépend pour ainsi dire de nous, pas nous de lui. Et si pendant des années nous n'avons pas envie de jouer, nous ne jouons pas. Et si l'envie nous prend, nous jouons Shakespeare, etc. Ou bien une aveugle dans une pièce insipide. 2 minutes de scène. L'art du théâtre n'est libre que là où il possède 51% des actions.
Et là, je peux répondre, sœur comédienne, oiseau de théâtre, gazouille de scène, faire du théâtre. C'est quand même un art abject, hein. Jouer d'un instrument, c'est tout autre chose. Dès qu'un acteur parle, j'ai constamment le sentiment que le monde est vulgaire. Tout autre chose quand un altiste joue de l'alto. Ça, c'est génial chez Bernard, c'est-à-dire mettre dans la bouche d'un acteur. Dès qu'un acteur parle, j'ai constamment le sentiment que le monde est vulgaire. C'est quand même très jubilatoire à faire quand on est acteur de dire cette chose-là. Et une fois d'ailleurs à Alès, à ce moment-là, il y a un spectateur qui a dû trouver que c'était un peu trop étouffant, ce dîner. Et il est parti. Et quand il partait, j'ai juste dit « faire du théâtre ». Puis j'ai regardé le monsieur partir, j'ai fait « c'est quand même un art abject ». Et là, il y a eu toute la salle, le gars s'est retourné. Donc c'était... Ça va Fanny, hein, y a Fanny, on connaît, excusez-nous.
Il y en a plein qui ont 51%.
Ah oui, oui.
D'ailleurs, on s'est amusé à compter à la sortie... les quelques-uns qu'on connaît qui ont 51%
des actions.
Alors donc c'est une pièce en trois actes, on le disait, c'est il y a l'avant-repas, le repas et l'après-repas avec cette montée, cette frise.
Et on a pas parlé de la scénographie qui est assez intéressante parce que Frédéric Bourré m'avait dit en interview qu'il voulait qu'il fallait que ça se déplace assez facilement, hein, c'est ça, c'était une des conditions.
Oui,
fallait que ce soit assez compact et qu'on puisse.
Oui, quand on n'a pas 51% des actions du théâtre, pour que ça tourne, il faut être léger. C'est-à-dire que ça, là, la volonté, comme c'est un spectacle avec trois acteurs, il avait des contraintes pour que ça rentre dans un camion de 30 mètres cubes,
c'est
etc.
Ça. Oui. Et du coup, j'ai trouvé moi très intéressant le fait que donc déjà ces jeux d'ombre et de lumière là, souvent elles sortent, ils sont à l'extérieur, mais on voit des ombres, etc. Et puis à la fin, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais le fait que quand on ouvre les fenêtres, on se retrouve sur les projecteurs. Voilà, on sort de la... Enfin, il n'y a plus de volonté d'illusion, quoi.
C'est Jeanne Joyer qui est la scénographe.
Oui.
Une grande scénographe costumière avec qui moi j'ai travaillé souvent sur les histrions, et puis elle a travaillé avec Fred aussi sur les costumes. Frédéric Boris, c'était sa troisième mise en scène, il a fait un Hamlet avant où il avait fait les costumes. Mm-hmm. Donc effectivement, ils avaient énormément de contraintes, et c'est souvent comme ça, de par les contraintes, il faut être un peu plus inventif, donc des contraintes financières, parce que l'économie du théâtre est difficile aujourd'hui, et des contraintes d'Espelsing, voilà. Et donc l'idée a été de faire comme un making-of en même temps, c'est-à-dire qu'on a deux pans de mur qui représentent cette salle à manger, et tout ce qui est derrière, c'est les projecteurs à vue, le théâtre à vue. Voilà, donc quand il ouvre une fenêtre, on ouvre sur les coulisses du théâtre.
Oui, c'est très fort en même temps aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'on on cache pas l'illusion. Il y a en même temps, effectivement, on sait qu'on est au théâtre, mais avec un souci de réalisme dans l'espace dans lequel on joue et autour, on voit toute la machinerie et l'outillage du théâtre. Parce que quand on ouvre une fenêtre, quand même, on tombe sur un mur. Ça, c'est quand même. Oui. C'est bon pour Bernard aussi. On ouvre une fenêtre et on tombe sur un mur.
Alors, on disait que les arts en prennent pour leur grade. Il y a que la musique qui échappe à cette destruction systématique.
Effectivement, oui. Oui, chez Ludwig Wittgenstein, il n'y a que ça, la musique. Mais Bernard aussi était un passionné de musique. Et puis là, après, avec cette obsession de dire, cette espèce de... uniquement ces musiques-là, évidemment, c'est-à-dire Beethoven, il n'y a que Beethoven, il écoute tous les soirs, ça fait partie de la thérapie, vers 8h, la symphonie héroïque, qui n'est quand même pas la symphonie la plus tranquille de Beethoven au monde. Alors on se dit, pour un fou, on l'imagine dans sa chambre en mettant à fond la symphonie héroïque, dont vous avez, je pense, un petit extrait, c'est
oui,
ça.
Oui, on mettra tout à l'heure.
Donc effectivement, il dit que le seul art véritable, c'est la musique. Et effectivement, ce qui réunit ces trois frères et sœurs, c'est qu'à un moment, à la fin, oui, dans le dîner, il dit, quand il dit faire du théâtre, c'est quand même un art abject, juste avant. Il dit, alors, que nous ayons fait de la musique ensemble, c'est-à-dire que ces trois ont fait de la musique ensemble, c'est comme si cela remontait à des milliers d'années. Tu joues encore de temps en temps de l'alto ? La sœur répond,
non.
Et il dit, nous abandonnons tout presque quand l'instrument que nous avons appris, nous l'abandonnons. Faire du théâtre, c'est quand même un art abject. Même la philosophie doit y penser. C'est-à-dire qu'on voit chez ces trois-là, ils ont essayé de faire de la musique, ils n'y sont pas arrivés. Donc il y a aussi cette frustration chez ces trois. Hein,
oui, non. En plus, non, musique qu'on retrouve aussi dans... Il y a des intermèdes musicaux aussi, systématiquement.
Schoenberg,
voilà,
petits extraits de...
Qui permettent de glisser d'un acte à l'autre, hein, de... Enfin, je ne sais pas si vous...
Et le frère, donc, il est philosophe. Il fait référence à deux philosophes pendant le spectacle. Il fait référence à Schopenhauer et à Nietzsche.
Oui.
Oui. Nietzsche, qui est quand même un philosophe bien destructeur, qui avait fait la philosophie à coups de marteau.
Schopenhauer aussi. Et Ludwig Wittgenstein, quand il a essayé d'écrire son Tractatus Logicus Philosophicus, qu'il a écrit à 29 ans, il voulait mettre un terme à toute la philosophie, là, cette prétention-là. Et certains ont dit que c'était un génie, certains ont dit que c'était une ineptie totale. Moi, j'en ai lu deux pages, je ne pourrais pas me prononcer sérieusement. par contre, effectivement... Je voulais répondre à la question, je ne sais plus quelle était la question. C'était
quoi, à propos des philosophes.
Ah, mais les philosophes.
Oui, et effectivement, mais Schopenhauer et Nietzsche sont aussi des gens que Bernhard a énormément lu. Et dans son écriture, on sent une descendance de ces philosophes-là. Et Ludwig Wittgenstein était effectivement un passionné de Schopenhauer et de Nietzsche qu'il a renié par la suite. Une fois qu'il a écrit son Tractatus, il a décidé de les renier. Donc il dit effectivement à un moment, fais confiance, fais un bout de chemin avec Schopenhauer, avec Nietzsche, amitié fatale, relation de papier, frère, livresque, liaison amoureuse imprimée, à la fin rien que des nausées. Voilà. Alors, parce qu'en même temps, il règle son compte à la philosophie aussi, parce que c'est un texte extrêmement dense, on a coupé un tiers du texte. Sinon, il aurait fallu 6 mois de répétition. Mais il règle aussi son compte à la philosophie, Bernhard. Ça, on l'a coupé. Il explique que nous entrons en philosophie comme on rentre dans une auberge. On est heureux, on commande un plat. Et puis finalement, le plat qu'on nous amène, ce n'est pas celui qu'on voulait. C'est de plus en plus mauvais. Et l'aubergiste est répugnant. Et finalement, on ne supporte plus ces auberges. Et on entre en philosophie comme on entre dans les auberges. Voilà. Et puis au final, on en ressort et on ne veut plus jamais y mettre les pieds. Enfin, il y a toujours cette chose... destructrice, autodestructrice.
Il n'a jamais vu philosophie sur Arte, mais à mon avis, il a tout deviné.
Voilà, c'est donc déjeuner chez Wittgenstein. C'est la dernière ce soir à Jean Villard.
Eh oui, dernière à Montpellier. Oui.
À 20h, est-ce que c'est un spectacle qui va tourner après ?
On l'espère. Après, on va jouer à Uzès. Je n'ai pas la date, mais c'est la semaine prochaine.
Vendredi
prochain à Uzès. Ensuite, on joue à Bédarieux, à Narbonne et à Perpignan, à l'archipel.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, c'est de 12h30 à 14h. L'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.
Thank you.